Le livre de Daniel, numéro 167. Décrypter la prophétie. Dévoiler la portée historique et prophétique de Daniel 11, 10 et au-delà.
Le verset 40 du chapitre 11 de Daniel commence « Au temps de la fin ». En 1798, lorsque le roi du Nord reçoit sa blessure mortelle de la main du roi du Sud. Cette histoire fut préfigurée par l'onde des Saturnas 586 avant Jésus-Christ, lorsque Ptolémée exerça sa vengeance contre le royaume du Nord, ainsi que par la France napoléonienne, emmenant le pape en captivité en 1798. Après que le roi du Sud retourne en Égypte au verset 9, le verset 10 indique alors que le roi du Nord lancerait une contre-attaque contre le roi du Sud.
Ainsi le roi du Midi entrera dans son royaume, puis retournera dans son propre pays. Mais ses fils se soulèveront et rassembleront une multitude de grandes forces. Et l'un viendra assurément, déferlera et passera au travers, puis il reviendra et sera poussé jusqu'à sa forteresse. Daniel 11, 9, 10.
Avant d'examiner le commentaire d'Ariah Smith sur l'histoire qui accomplit le verset 10, nous relevons l'expression « déborder et traverser ». L'expression hébraïque qui est traduite de cette manière est également traduite, au verset 40, par « déborder et passer par-dessus ». C'est la même expression dans l'hébreu original. On ne la trouve qu'un seul autre endroit dans les Écritures.
« Et il pénétrera en Juda, il débordera et submergera, il atteindra jusqu'au cou, et le déploiement de ses ailes remplira toute l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. » Ésaïe 8, 8.
Dans Daniel, chapitre 11, verset 10 et verset 40, puis de nouveau dans Ésaïe, chapitre 8, verset 8, la même expression hébraïque est traduite de trois manières différentes, bien qu'elles aient le même sens. Le dernier mot de l'expression, le mot hébreu « abar », est rendu soit par « pass through » au verset 10, « pass over » au verset 40, puis par « go over » dans Ésaïe. Le sens est essentiellement le même dans chacune des trois références, mais dans Ésaïe, il existe aussi un autre lien prophétique entre les références. Le verset dans Ésaïe s'est accompli lorsque le roi d'Assyrie a conquis Juda et est venu jusqu'à Jérusalem, mais il n'a jamais conquis la ville elle-même. Il est monté jusqu'au cou, mais il n'a jamais conquis la tête. Dans cette même prophétie, Ésaïe expose un symbole prophétique de ce que représente une tête, et il identifie une tête comme la capitale du royaume, et le roi du royaume est aussi la tête. Il fournit deux témoins de la vérité prophétique selon laquelle une tête représente un roi et un royaume. Puis il indique, de manière cryptique, que si celui qui étudie la prophétie n'accepte pas et ne comprend pas cette vérité, il ne sera pas affermi. Le verset cryptique fait partie de cette même prophétie qui indique que le roi du Nord déborderait et passerait, mais seulement jusqu'au cou.
Car la tête de la Syrie, c'est tête d'Amas, et la tête de Damas, c'est Trouzana. Et dans 65 ans, Éphraïm sera brisé, au point de ne plus être un peuple. Et la tête d'Éphraïm, c'est Samarie. Et la tête de Samarie, c'est le fils de Remalia. Si vous ne croyez pas, certainement, vous ne subsisterez pas. Ésaïe 7, 8, 9.
La tête de la nation de Syrie était sa capitale, Damas. Et la tête de Damas, la capitale, était Rezin, le roi de Syrie. De même, la tête de la nation d'Éphraïm était sa capitale Samarie, et la tête de Samarie, la capitale, était le fils de Remalia, Pekah, le roi de Samarie. Dans la même prophétie, au chapitre suivant, au verset 8, le roi Sennachérib d'Assyrie encercla Jérusalem. Et au verset 8, il est dit que son encerclement de Jérusalem montait jusqu'au cou. Les versets 7 et 8, qui présentent, sur le témoignage de deux témoins, le symbole prophétique d'une tête, représentant à la fois le roi et la capitale de la nation du roi, constitue la prophétie des 65 ans qui identifie le point de départ des deux prophéties de 2520 ans contre les royaumes du nord et du sud d'Israël. C'est donc un verset très complexe, car il se rattache aux versets 10 et 40 du chapitre 11 de Daniel, lesquels identifient eux aussi des affrontements où un roi du nord attaque un roi du sud, tout comme Sennachérib, un roi du nord, attaqua Juda, un roi du Sud, au verset 8 du chapitre 8 d'Ésaïe. La clé qui relie entre eux ces affrontements des rois du Nord et du Sud, c'est la tête et le débordement et le passage. Quand le roi du Nord riposte contre le roi du Sud au verset 10 du chapitre 11, il remporte la bataille, mais il laisse la tête car il vient et déborde et passe jusqu'à la forteresse du roi du Sud. L'histoire du verset 10 représente la victoire du roi du Nord sur le roi du Sud, mais il n'entre pas en Égypte, la forteresse, la capitale, la tête. Lorsque, précédemment, le roi du Sud a vaincu le roi du Nord au verset 7 et 8, il entra dans la forteresse du roi du Nord et prévalut et emmena des captifs en Égypte. Lors de la victoire de représailles du roi du Nord, il n'entra pas en Égypte, préfigurant ainsi que, lorsque l'Union soviétique fut balayée en 1989, la Russie, dont la capitale, sa tête, demeura debout. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez certainement pas. C'est la Russie, représentée sous les traits du roi du Sud, au verset 11 et 12, qui remporte la bataille de la frontière, qui, dans l'Antiquité, était Raphia, et qui aujourd'hui est l'Ukraine.
Verset 7. Mais ses fils se soulèveront et rassembleront une multitude de grandes troupes. Et l'un viendra certainement, déferlera et passera au travers. Puis il reviendra et se soulèvera, même jusqu'à sa forteresse. La première partie de ce verset parle de fils, au pluriel. La dernière, d'un seul, au singulier. Les fils de Séleucus Callinicus étaient Séleucus Séronus et Antiochus Magnus. Tous deux s'engagèrent avec zèle dans l'œuvre de défendre et de venger la cause de leur père et de leur patrie. L'aîné d'entre Séleucus monta d'abord sur le trône. Il rassembla une grande multitude pour recouvrer les domaines de son père. Mais, prince faible et pusillanime, tant par le corps que par la fortune, dépourvu d'argent et incapable de maintenir son armée dans l'obéissance, il fut empoisonné par deux de ses généraux après un règne sans gloire de 2 ou 3 ans. Son frère plus capable, Antiochus Magnus, fut alors proclamé roi. Prenant la tête de l'armée, il reprit Séleucia et recouvra la Syrie, se rendant maître de certaines places par traité et d'autres par la force des armes. Une trêve s'ensuivit, au cours de laquelle les deux parties négocièrent la paix tout en se préparant à la guerre. Après quoi, Antiochus revint, vainquit Nicolas au combat, le général égyptien, et songea à envahir l'Égypte elle-même. Voici le 1 qui devait assurément déborder et passer. Uriah Smith, Daniel et l'Apocalypse, 283.
L'effondrement de l'Union Sétatif en 1989 a marqué le temps de la fin, et les deux fils dans le verset représentent les deux jalons de Reagan et de Bush père. Depuis le temps de la fin, en 1798, là où a commencé le verset 40 de Daniel 11, la prostituée de Rome a été oubliée, car elle, comme Jézabel, reste à l'arrière-plan à Samarie, tandis que son mari Achab s'adresse à Élie au Mont Carmel. Elle était cachée, mais tirait secrètement les ficelles, comme elle l'était pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Son mari et son armée par procuration contre le roi du Sud. Lorsqu'elle a riposté en 1989, elle, en tant que roi du Nord, a déployé des chars, des navires et des cavaliers.
Au temps de la fin, le roi du Midi l'attaquera, et le roi du Nord fondra sur lui comme un tourbillon, avec des chars, des cavaliers et de nombreux navires. Il entrera dans les pays, débordera et passera outre. Daniel 11, 40.
Son instrument dans la riposte est figuré par des navires, symbole de la puissance économique, et par des chars et des cavaliers, symbole de la puissance militaire. La puissance militaire et la puissance économique sont les deux attributs prophétiques des États-Unis dans les prophéties des derniers jours, car les États-Unis interdiront à ceux qui ne se prosterneront pas devant Jézabel d'acheter et de vendre. Et s'ils refusent encore la marque d'autorité de Jézabel, ils seront mis à mort. Ce sont la puissance économique et la force militaire des États-Unis, mises en œuvre en coopération avec la papauté, qui ont entraîné la dissolution de l'Union soviétique en 1989, bien que la Russie ait subsisté. L'histoire qui a accompli le verset 10 du chapitre 11 de Daniel se répète dans l'histoire de la deuxième partie du verset 40, qui identifie le temps de la fin en 1989. L'histoire des versets 6 à 9 représente l'histoire qui a conduit au temps de la fin, qui est identifiée dans la première partie du verset 40. Les versets 5 à 10 du chapitre 11 de Daniel illustrent parfaitement l'histoire du verset 40 de Daniel 11, car, comme l'a consigné Sir White, une grande partie de l'histoire qui s'est accomplie dans le 11e chapitre de Daniel se répétera. Les versets 1 à 4 du chapitre 11 de Daniel identifient Cyrus, le deuxième roi de la nation aux deux cornes au temps de la fin, dans les derniers jours. Le temps de la fin, dans les derniers jours, correspondait à 1989, et le deuxième président, représenté par Cyrus, établit une séquence prophétique qui permet à un étudiant de la prophétie de compter jusqu'au sixième président après 1989, qui serait le président le plus riche et qui exciterait, réveillerait, les puissances du dragon mondialiste, qu'ils soient les mondialistes du monde entier ou ceux des États-Unis. Cette histoire prophétique passe ensuite au septième royaume de la prophétie biblique, les 10 rois des Nations Unies, et en identifie le roi principal et premier, représenté par Alexandre le Grand, qui signifie « le guerrier des hommes », ainsi que la dissolution ultime de son royaume lorsque les 4 vents de l'islam seront pleinement relâchés à la clôture de la probation humaine. Les versets 5 à 9 illustrent l'histoire représentée par la période qui a précédé l'établissement de la papauté sur le trône en son centre à Nut, car la puissance destinée à devenir le roi du Nord doit d'abord surmonter trois obstacles géographiques, comme le fils Éleucos qui fut alors établi roi du Nord. Ensuite, pendant 3 ans et demi, représenté par 35 années réelles, le roi du Nord régna, jusqu'à ce que le roi du Sud entre dans sa forteresse et le fasse prisonnier. Il mourut plus tard en Égypte d'une chute de cheval. Ainsi, les versets identifient l'histoire qui s'est achevée au temps de la fin en 798. Le verset 10 identifie l'histoire du temps de la fin en 1989 et, avec les versets 5 à 9, il représente l'histoire du verset 40. Il en va de même pour l'histoire des versets 30 à 36. Par conséquent, du verset 1 au verset 10, ligne sur ligne, il y a 2 lignes prophétiques. La première s'adresse aux dirigeants des 6e et 7e royaumes, bien qu'il y ait un intervalle entre le 6e et le plus riche président du 6e royaume et le 7e royaume. La deuxième ligne couvre l'histoire de l'élimination des 3 obstacles, la période durant laquelle le roi du Nord a régné et celui qui a ensuite été destitué en 1798, et jusqu'en 1989, ainsi que le 2e président, représenté dans la ligne précédente par Cyrus. Les versets 11 et 12 représentent une 3e ligne d'histoire qui se situe après le président riche du verset 2, mais quelque temps après l'effondrement de l'Union soviétique, au temps de la fin en 1989, et quelque part avant la loi du dimanche aux États-Unis, telle que représentée au verset 16. Histoire postérieure au temps de la fin, en 1989, est menée dans la première ligne jusqu'au 6e et plus riche président, qui soulève les mondialistes à partir de 2016. Dans la seconde ligne, l'histoire prophétique est menée jusqu'en 1989. La bataille de Rafia, la frontière, au verset 11 et 12, précède le verset 13, où le roi du Nord, récemment vaincu, reconstitue son armée, puis défait le roi du Sud, juste avant la loi du dimanche du verset 16. La puissance par procuration du roi du Nord, au verset 13, est le dernier des 8 présidents qui règnent de 1989 jusqu'à la loi du dimanche. Le verset 13 doit donc se situer au moment de 2 élections du 8e président, qui est issu des 7 ou après celle-ci. Les versets 11 et 12 commencent juste avant le 6e et plus riche président et s'achèvent vraisemblablement juste avant l'élection de ce même président, qui devient le 8e issu des 7 et sort victorieux de la 3e bataille de la guerre par procuration, au verset 13 à 15. La représaille du roi du Sud, au verset 11 et 12, répond à la défaite que le roi du Sud a subie, au verset 10. Le verset 10 identifie la victoire du roi du Nord en 1989, laquelle fut rendue possible par l'alliance secrète des États-Unis et du Vatican. La victoire de l'armée du Nord fut la première bataille de la guerre par procuration. La guerre chaude littérale, qui s'est accomplie dans l'Antiquité, préfigurait une guerre par procuration dans les derniers jours. Et la victoire des versets 11 et 12 sera donc une victoire du roi du Sud dans la seconde bataille des guerres par procuration. Il y a 3 batailles dans les versets 10 à 15, et elles se sont toutes accomplies dans l'Antiquité par des guerres chaudes littérales, mais elles représentent 3 batailles dans les guerres par procuration des derniers jours. La première bataille fut remportée en 1989 par l'alliance secrète de la bête et du faux prophète contre le dragon. La 2e bataille des guerres par procuration sera remportée par la puissance athée du dragon, le roi du Sud, contre l'alliance du pape et de son armée par procuration. La 3e bataille des guerres par procuration sera remportée par l'armée par procuration du roi du Nord, comme cela est représenté dans les versets 13 à 15. Prophétiquement, il y a 3 guerres mondiales chaudes, 3 guerres par procuration, composées de 3 batailles, ainsi que la guerre des 3 malheurs de l'islam. Il y a aussi une guerre civile et une guerre révolutionnaire. La 2e bataille des guerres par procuration est maintenant en cours en Ukraine, la frontière, telle qu'elle est représentée par Rafia, qui était la frontière entre le roi du Sud et le roi du Nord lorsque les versets 11 et 12 se sont accomplis pour la première fois dans l'histoire. Au même moment où se déroule la 2e bataille des guerres par procuration en Ukraine, se produit aussi la 2e des 3 attaques de l'islam contre le glorieux pays. La 1ère attaque du 3e malheur eut lieu le 11 septembre 2001, et le scellement des 144 000 commença. Le temps du scellement prend fin avec la loi dominicale qui doit bientôt survenir aux États-Unis, lorsque l'islam du 3e malheur frappera de nouveau les États-Unis. Les 1ère et 2ère frappes sont identiques, et toutes 2 marquent une voix de l'ange d'Apocalypse 18, qui est aussi la voix du 3e ange, qui est aussi le retentissement de la 7e trompette, qui est aussi le 3e malheur. Au milieu de ces 2 attaques, qui sont 2 voix, qui constituent le son de la 7e trompette, l'islam du 3e malheur attaqua. Non pas l'ancien pays glorieux littéral, mais l'ancien pays glorieux littéral, le 7 octobre 2023. La guerre qui commença alors a maintenant lieu dans la région même où se déroula la bataille de Rafia, telle qu'elle est décrite aux versets 11 et 12. La bande de Gaza est la frontière entre le royaume méridional de Juda et l'Égypte. Le 7 octobre 2023 est une roue au milieu des autres roues qui marque la rébellion, ou la 13e lettre de l'alphabet hébreu qui, avec la première et la dernière lettre, forme le mot « vérité ». La seconde attaque de l'islam du troisième malheur contre le pays glorieux eut lieu le 7 octobre 2023 et elle se produisit dans la zone exacte où l'ancienne bataille de Rafia s'était déroulée, en accomplissement des versets 11 et 12. La seconde attaque contre le pays glorieux est, par le symbolisme géographique prophétique, reliée à la seconde bataille des guerres par procuration, telle qu'elle est représentée par la guerre en Ukraine. Ligne après ligne, la seconde bataille des guerres par procuration, qui est maintenant en cours en Ukraine, la marche, comprend la seconde note de la trompette du troisième malheur, 7 octobre 2023, laquelle s'accomplit dans la période finale du scellement des 144 000. Cette expérience de scellement est illustrée par Daniel au chapitre 10, lorsqu'il voit la vision de la Mara après la période de 21 jours de deuil, laquelle correspond aux 3 jours et demi durant lesquels les deux prophètes furent morts dans la rue. La vision fut interprétée comme l'explication de ce qui devait arriver au peuple de Dieu dans les derniers jours. La vérité représentée par la vision du fleuve Hiddekel, qui est la vérité scellante, s'accomplit dans l'histoire prophétique des versets 11 à 15. C'est l'histoire du verset 40, qui commence en 1989 et se poursuit jusqu'au verset 41 et à la loi du dimanche imminente. C'est l'histoire du sixième président, le plus riche, du verset 2 qui est représenté jusqu'au septième royaume d'Alexandre le Grand, comme le mentionne le verset 3. Histoire qui a commencé au début de la seconde bataille des guerres par procuration, en 2014, suivie par le président le plus riche, commençant sa campagne en 2015, et l'espace vide du verset 40 de 1989 jusqu'à la loi du dimanche au verset 41. Et c'est aussi l'espace vide allant du sixième président le plus riche au verset 2 jusqu'au septième royaume. C'est l'histoire qui a commencé avec la première voix d'Apocalypse, chapitre 18, le 11 septembre 2001, et qui s'achève avec la seconde voix à l'heure du grand tremblement de terre, au chapitre 11 de l'Apocalypse. Cette histoire est aussi la période historique identifiée par Ézéchiel, au chapitre 12, où toute vision s'accomplit. Cette période est le temps du scellement des 144 000, la sanctification du peuple de Dieu s'accomplit par sa parole.
« Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Jean 17, 17.
Nous poursuivrons cette étude dans le prochain article.
Cette vision fut donnée à Ézéchiel à un moment où son esprit était rempli de sombres pressentiments. Il voyait le pays de ses pères à l'abandon. La ville autrefois pleine de monde n'était plus habitée. La voix de l'allégresse et le chant de louange ne se faisaient plus entendre dans ses murs. Le prophète lui-même était un étranger en terre étrangère, où une ambition sans bornes et une cruauté sauvage régnaient sans partage. Ce qu'il voyait et entendait de la tyrannie humaine et de l'injustice affligeait son âme, et il pleurait amèrement jour et nuit. Mais les merveilleux symboles qui se présentèrent devant lui, au bord du fleuve Chébar, révélaient une puissance suprême, plus forte que celle des souverains de la terre. Au-dessus des fiers et cruels monarques d'Assyrie et de Babylone, le Dieu de miséricorde et de vérité siégeait. Les rouages compliqués qui semblaient aux prophètes s'entremêler dans une telle confusion étaient sous la conduite d'une main infinie. L'Esprit de Dieu, qui lui fut révélé comme mettant en mouvement et dirigeant ses rouages, fit naître l'harmonie de la confusion. Ainsi, le monde entier était sous son contrôle. Des myriades d'êtres glorifiés étaient prêts, à sa parole, à faire échec à la puissance et aux d'eux-mêmes descendre des hommes méchants et à apporter le bien à ses fidèles. De même, lorsque Dieu allait dévoiler aux bien-aimés gens l'histoire de l'Église pour les âges à venir, il lui donna l'assurance de l'intérêt et des soins du Sauveur envers son peuple en lui révélant quelqu'un semblable au Fils de l'homme, marchant au milieu des chandeliers, qui symbolisaient les sept églises. Alors que Jean voyait les derniers grands combats de l'Église contre les puissances terrestres, il lui fut aussi permis de contempler la victoire finale et la délivrance des fidèles. Il vit l'Église entraînée dans un conflit mortel avec la bête et son image, et le culte de cette bête imposé sous peine de mort. Mais, regardant au-delà de la fumée et du fracas de la bataille, il contempla une foule sur le mont Sion avec l'agneau, ayant, au lieu de la marque de la bête, le nom du Père écrit sur leur front. Et il vit encore ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête, sur son image, sur sa marque et sur le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu et chantant le cantique de Moïse et de l'agneau. C'est le sens en pour notre bien. Nous devons faire reposer notre foi sur Dieu, car un temps est devant nous qui mettra à l'épreuve les âmes des hommes. Christ, sur le mont des Oliviers, a rappelé les terribles jugements qui devaient précéder sa seconde venue. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Bien que ces prophéties aient connu un accomplissement partiel lors de la destruction de Jérusalem, elles ont une application plus directe aux derniers jours. Nous nous tenons au seuil de grands et solennels événements. Les prophéties s'accomplissent rapidement. Le Seigneur est à la porte. Une période d'un intérêt immense pour tous les vivants va bientôt s'ouvrir devant nous. Les controverses du passé seront ravivées, de nouvelles controverses surgiront. Les scènes qui doivent se dérouler dans notre monde ne sont même pas encore imaginées. Satan est à l'œuvre au moyen d'agents humains. Ceux qui s'efforcent de modifier la Constitution et d'obtenir une loi imposant l'observance du dimanche se rendent peu compte de ce qu'en sera le résultat. Une crise est à nos portes. Mais les serviteurs de Dieu ne doivent pas s'en remettre à leur propre force dans cette grande crise. Dans les visions accordées à Isaïe, à Ézéchiel et à Jean, nous voyons à quel point le ciel est étroitement lié aux événements qui se déroulent sur la terre et combien grande est la sollicitude de Dieu envers ceux qui lui sont fidèles. Le monde n'est pas sans souverain. Le plan des événements à venir est entre les mains du Seigneur. La majesté du ciel a, à sa charge, la destinée des nations ainsi que les intérêts de son Église. Témoignage, volume 5, 752-753.